Allez, courage. Il m'arrive quelque chose aujourd'hui qui ne m'est jamais arrivé. J'ai oublié mes notes. Alors, heureusement, mes notes sont sur cet appareil. Mais appuyez sur le bouton principal pour le déverrouiller. Je fais ça. Voilà. Je me rappelle le code. Voilà. 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 C'est là. Bien, donc aujourd'hui, je continue une étude qui avait été commencée, je crois, en novembre, sur l'Épître aux Hébreux. Et cette Épître aux Hébreux, elle est très particulière par rapport à toutes les autres Épîtres, par sa structure, la façon dont elle est construite. C'est un peu un tissage. On va d'ailleurs le remarquer aujourd'hui. On va remarquer que c'est un tissage, parce que je vais vous parler du chapitre, revenir sur certains éléments du chapitre 4, aller au chapitre 6, revenir au chapitre 5 et au chapitre 7. Si vous voyez, c'est fait comme ça, c'est d'une certaine façon tissé. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, je pense, que c'est parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous dire plusieurs choses. Il veut nous présenter Christ, qui est l'auteur du salut, et en même temps, il nous présente le salut. Donc il nous présente l'un et l'autre, et l'un avec l'autre. Et vous verrez que si on voit les choses comme ça, on comprend mieux l'organisation de l'Épître. Qu'est-ce qu'il dit donc? Quel est le fond de l'affaire? Ce qu'il veut nous dire, c'est que Christ, c'est le Fils de Dieu, qu'il est la parole de Dieu, il est aussi le Fils de l'homme. Je vous rappelle, il est le Fils de l'homme aussi. Il est la victime expiatoire, la victime propitiatoire, c'est-à-dire que c'est lui qui rend Dieu propice à notre endroit. Et la victime propitiatoire, c'est Christ. Il est élevé à la perfection de la foi, et ça, c'est ce qui nous est dit ici. Il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et le salut qu'il nous offre, il est parfait et éternel. Comme lui-même, Christ est parfait et éternel. C'est-à-dire la perfection de Christ et son éternité se projettent dans le salut qui nous est donné en Christ. Et c'est ça qu'il veut dire. Donc je vous résume un peu ce que je vais vous dire en plus grand détail maintenant. Mais c'est pour vous permettre de vous fixer un peu les idées. Ce qu'il y a dans le centre de cette épître, c'est Christ et le salut. Les perfections de Christ et les perfections du salut. Vous voyez? Et le fait que Christ est souverain sacrificateur, c'est-à-dire qu'il est grand prêtre de ce nouveau sacerdoce. C'est le sacerdoce, c'est celui qui offre son... C'est lui qui offre son sang pour nous sauver. Comme le souverain sacrificateur offrait le sang des taureaux et des boucs pour le salut du peuple, lui, il offre son propre sang. Il est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Et donc, en même temps qu'il est la victime, Christ est victime et souverain sacrificateur. Il est les deux dans la nouvelle alliance. Et donc, c'est ça que... Il veut dire dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur, et le fait qu'il soit souverain sacrificateur et que ça soit clamé avec une telle force, c'est vraiment spécial à l'Épître. Vous ne l'avez pas dans les autres Épîtres. Cette pensée-là, elle est un tout petit peu dans l'Épître aux Romains, un tout petit peu, mais pas enseignée avec cette force-là. Bon. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que cet épître, on n'en connaît pas l'auteur. Ce qui fait dire à certains que pour cette raison, c'est une femme. Je ne sais pas. Pour d'autres, ça c'est une femme parce que c'est compliqué. Ça peut être ça aussi. Mais personne ne sait qui a écrit cette épître. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant de se rendre compte que c'est resté secret. Et même les pères de l'Église se sont interrogés. Qui est l'auteur de cette épître? Personne ne sait. Alors, je voudrais reprendre, au fond, je voudrais reprendre, à partir du moment où je vous avais parlé des repos, le repos de Dieu. Je vous avais parlé, je vous avais dit que le repos de Dieu, en fait, c'était l'éternité qui nous était offerte en Christ. C'est l'éternité. On sait que le septième jour, je vous rappelle que le septième jour est un jour qui a un début, effectivement, qui est le moment où Dieu commence son septième jour, qui n'a pas de fin. Et que Dieu rentre dans son repos, il rentre dans son éternité. Et quel est son but? C'est de nous faire rentrer nous-mêmes dans ce repos. Regardez ce qui est écrit au chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Et si vous regardez au chapitre 4, au verset 3, « Pour nous qui avons cru, » très important, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, etc. » Et il s'agit du repos de Dieu. Et il dit ensuite, « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu des siennes. » Rentrer dans le repos de Dieu, c'est rentrer dans l'éternité de Dieu. Rentrer dans le repos de Dieu, c'est rentrer être avec Dieu, dans son repos et avec lui. C'est ça, rentrer dans le repos de Dieu. Et donc, ce que l'auteur de l'Épître nous dit, il nous dit que nous sommes destinés, nous qui avons cru. Le point très important, c'est nous qui avons cru. Nous sommes destinés à rentrer dans le repos de Dieu. Nous qui avons cru. La foi, vous voyez, dans le salut, tout est l'œuvre de Dieu. Je dirais même dans la vie chrétienne, parce que le salut, nous y entrons par la justification, mais la sanctification aussi, c'est Dieu qui sanctifie, et c'est Jésus qui nous sanctifie. Et comme il est dit dans Hébreu 12, je crois, c'est lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est lui qui la suscite et l'amène à la perfection. Et ailleurs, vous verrez que c'est lui qui soutient notre foi. C'est lui qui nous garde, on verra ça. Donc, dans l'œuvre du salut, dans la justification, tout est l'œuvre de Dieu parce que c'est Christ qui nous justifie par son sang. Mais dans la sanctification, tout est l'œuvre de Dieu parce que c'est Dieu qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous garde. Il nous garde. Je reviendrai là-dessus dans 1 Pierre. Nous sommes gardés par la foi, par le moyen de la foi, pour le salut, par le moyen de la foi. Et c'est Dieu qui lui-même nous garde dans la foi. Et vous voyez, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, aujourd'hui, il dit, tout est l'œuvre de Dieu par rapport au salut, et il incite les gens à rentrer dans le repos de Dieu, mais en même temps, il pose la question, parce qu'il écrit à un public composite. Dans ce public, il y a des chrétiens et des non-chrétiens. Il y a de tout. Il y a des Hébreux qui sont déjà convertis, et il y a des Hébreux qui ont compris le message de l'Évangile, mais qui ne sont pas vraiment convertis. En quoi est-ce qu'ils ne sont pas vraiment convertis? Vous pouvez avoir compris le message de l'Évangile et pas être vraiment converti. Quelle est la chose qui fait la conversion? Ce qui fait la conversion, c'est la foi. Et qu'est-ce que c'est que la foi? Parce qu'on dit, ben voilà, est-ce que vous avez la foi? Ben oui, j'ai la foi. C'est un don de Dieu, mais c'est un don de Dieu particulier qui a plusieurs composantes. C'est d'avoir confiance en Dieu et de vouloir lui obéir. La foi, confiance et obéissance. Et la confiance, c'est de mettre vraiment, de dire, moi j'ai confiance dans ce Dieu-là. Je lui fais confiance. Quand vous avez mis pour la première fois confiance en Dieu, c'est quand, ayant entendu le salut, ayant entendu que Christ était mort pour vous, vous avez dit, j'ai confiance que c'est vrai. C'est le premier acte de foi que l'on fait pour le salut. J'ai confiance, je sais que c'est vrai. Je crois et je sais que c'est vrai. C'est l'acte fondateur dans votre vie. C'est l'acte fondateur qui a été l'acte fondateur dans la vie d'Abraham. Quand à Abraham, Dieu a montré ce que serait sa descendance, il lui a montré le ciel. Et quand il lui a monté le ciel, il lui a dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Oh, il n'avait pas d'enfant à l'époque. Il n'avait même pas, bon bien sûr pas Isaac, mais il n'avait pas encore Ismaël. Il a Ismaël à la page d'après. Qu'est-ce qui est écrit ? Abraham crut à Dieu qui le lui imputa à justice. Ce qui signifie, il crut à Dieu et Dieu a dit, cette foi-là te justifie, te rend juste devant ma face et donc te donne accès au salut devant ma face. C'est ça qui est la conversion. C'est ça qui est la justification. La justification, c'est croire et mettre sa confiance en Dieu. Il lui a dit, tu vois, regarde. Lui, il n'avait aucun enfant à l'époque. Sa femme était stérile. Il n'y avait pas d'espoir. Voilà, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Il crut à Dieu qui lui dit, voilà, parce que tu m'as fait confiance, je te déclare juste. Tu es juste, tu es lavé de ton péché. Cette confiance me permet de te mettre au bénéfice. Alors, il le mettait au bénéfice du sang de Christ d'avance. Mais ceci te justifie, ceci te rend juste. Voilà ce que c'est que la conversion. La conversion, c'est de croire ce que Dieu dit. Et en ce qui nous concerne, quand on s'est converti, quelqu'un nous a dit, voici ce qu'il est l'Évangile, voici ce que le Fils de Dieu a fait pour toi. Il est mort sur une croix pour toi, il a versé son sang pour toi. Ce sang, il est suffisant pour te sauver. Et là, quand tu as cru, c'est là que tu, ayant cru, tu étais regardé comme juste devant Dieu, tu es justifié. Tu es sauvé de la colère de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Le salut, c'est d'être sauvé de la colère de Dieu. Le salut, c'est d'être sauvé. Sauvé de quoi ? De la colère de Dieu qui reste sur nous quand on est en opposition avec la volonté de Dieu. Mais si on croit Dieu, là on n'est plus en opposition avec Dieu et Dieu dit voilà, je te sauve, je t'ouvre la porte de mon ciel, de mon repos, de l'éternité. Je vais vous lire donc maintenant, je vais vous lire pour introduire le chapitre, revenir sur certains éléments du chapitre 4, en vous lisant certains versets, je prends à partir du chapitre 3, verset 8, mais je ne vais pas lire tous les versets, je vais en lire que 4, mais qui vous donne le sketch de ce qui est dit. Il dit, voilà, aujourd'hui, il explique ce qu'est le repos. Quel est le repos dont ton Dieu nous parle ? Il parle d'un repos qui est un repos qui nous est destiné. Et pour le faire, il commence à prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans le désert quand le peuple de Dieu était sorti d'Égypte et qu'il a commencé à voir les œuvres de Dieu. Et il est écrit dans le psaume 95, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sous David, au psaume 95, 1000 ans après, David dit « Rappelez-vous au moment de la révolte. » Et lui, il est en train de parler des choses de Dieu à des gens plus tard. Il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend ce texte en disant, pour nous, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce qu'ils avaient entendu? Comment avaient-ils entendu la voix de Dieu? On va revenir là-dessus. Aujourd'hui, si vous entendez, aussi, puisqu'ils avaient endurci leur cœur, aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ayant refusé d'avoir vu d'avoir entendu la parole de Dieu, d'en avoir tiré les conséquences, Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et ça, c'est pour nous. C'est-à-dire que cette expérience des gens qui, par incrédulité, se sont détournés de Dieu, le psaume 95 par David en reparle, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, on est dans la même situation, faites attention. Il dit, faites attention. Ne vous détournez pas de la voix de Dieu. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Vous voyez, on vient à cette question de la foi. C'est le verset 4, c'est 4-2. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe de la même façon en refusant d'obéir. Une autre traduction dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là pour que personne ne tombe de la même manière en refusant d'obéir. » Vous voyez, qu'est-ce que ça signifie, ça? Au verset 3 du chapitre 4, il dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. » Au verset 11, il dit « Empressons-nous donc d'entrer. » Parce qu'il a... Comme je vous ai dit, il y a un public composite. Certains sont déjà rentrés. Il dit, il y en a qui ne sont pas rentrés. Il dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe. Vous voyez, vous avez l'entrée dans le repos de Dieu. Alors, faudrait que je vous montre ça comme ça. Vous marchez ici. Le repos de Dieu, oh là là, oh excuse-moi. J'ai fait tomber le truc. Le repos de Dieu, il est ici. Il lui dit, faites attention à bien rentrer dans le repos. Parce qu'une fois que vous y êtes, vous y êtes. Mais tant que vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Empressez-vous d'entrer dans le repos. Entrez dedans. Une fois que vous y êtes, vous y êtes. Mais tant que vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et comment est-ce qu'on rentre? Je vous ai dit, par la foi. Ceux qui n'ont pas pu y rentrer, c'est parce qu'ils n'ont pas cru à la parole qui leur avait été annoncée. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Voyez, les mots qui caractérisent ceux qui irritèrent Dieu du temps de Josué, c'est qu'ils étaient mauvais, ils étaient méchants, incrédules, désobéissants. Ça, c'est les mots clés. Incrédule, désobéissant. Et qu'est-ce qui sont les mots qui caractérisent Christ? Alors ça, on le voit dans les chapitres qui précèdent. C'est miséricordieux, compassionné, indulgent, fidèle, obéissant. Ce qui caractérise Christ, c'est la miséricorde, la compassion, l'indulgence, la fidélité, l'obéissance. C'est ce qui doit nous caractériser, nous. Hein, si on prenait les béatitudes, on pourrait reprendre les béatitudes, mais ça nous prendrait du temps, et on retrouverait ça. On retrouverait ces pensées-là. Alors, ensuite, vous avez des avertissements. Et c'est très important de comprendre comment s'organisent les avertissements. Les avertissements qui sont au verset 12 du chapitre 4, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, alors vous demandez... » Après que je vous fais l'expérience ici de la marche, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, c'est le verset 12 du chapitre 4. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, vous voyez que c'est assez intéressant la façon dont est construit ce petit chapitre, ces deux versets. D'abord, on commence car la parole de Dieu est vivante, elle est au féminin, et puis ça continue au masculin. Ici, nulle créature n'est cachée devant lui. Vous voyez, la parole de Dieu, elle a ces deux aspects. C'est la parole écrite et puis c'est le Christ lui-même. Donc, vous voyez ces deux aspects qui sont là. Ce qui se passe, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'il est capable, la parole de Dieu est capable de séparer entre jointure et moelle, mais entre âme et esprit. Parce qu'en nous, il y a l'âme et l'esprit. Et là, je ne peux pas rentrer dans des grands détails, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai étudié, sur lequel j'ai travaillé pas mal, mais on voit que nous sommes faits de deux parties. Nous sommes une partie matérielle, une partie immatérielle, mais nous sommes faits en deux parties, une partie matérielle, une partie immatérielle, mais en trois composantes, corps, âme et esprit. Alors vous allez me dire... Mais il y a des gens qui disent « âme et esprit, c'est la même composante, vous avez corps, âme et esprit ». C'est dommage que ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Au verset 19, c'est marqué « gardez votre corps et votre âme et votre esprit ». Et l'apôtre Paul, qui n'était pas un fou, il n'a pas mis « et ». Si ces deux composantes étaient la même composante, ce sont deux composantes différentes. Une composante, l'esprit, pour faire bref, hein, c'est celle qui, ultimement, va recevoir l'esprit de Dieu quand il vient s'installer dans le cœur du croyant. Et l'âme, c'est ce qui correspond à nous, ce que nous sommes. Notre âme, c'est dans notre âme qu'il y a tout ce qui nous caractérise, si vous voulez. C'est notre personnalité qui est là, les sentiments, la volonté, l'intelligence... nos goûts, les appétits qui alimentent nos ambitions, généralement, et la tyrannie de notre chair qui est liée à notre âme. Elle est beaucoup liée à notre cerveau. Elle est installée dans notre cerveau, l'âme. C'est elle qui dirige notre corps, c'est elle qui ressent les attentes du corps, mais c'est elle aussi qui est capable de... C'est elle qui est capable de... si vous voulez, c'est en elle que réside notre personnalité. Notre personnalité, elle est là. Et dans l'esprit, dans notre esprit, il y a notre esprit est en fait la partie de nous-mêmes qui peut recevoir l'esprit de Dieu. Qui reçoit d'ailleurs l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne va pas dans l'âme. Il réside dans l'esprit, dans le corps humain. Il réside dans l'esprit. Et donc l'esprit, lui, il influe sur l'âme. Le corps influe sur l'âme. Et là, c'est là que se tient toute la bagarre. L'âme est le siège, et au fond, l'âme, c'est le champ de bataille. Entre le corps, avec l'âme, et l'esprit. Et pour le chrétien, normalement, la victoire doit être tenue par l'esprit, qui tenu par Dieu, nous conduit. Et bien souvent, il y a des batailles qui sont perdues par l'esprit. Quand c'est notre âme et tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut, tout ce qui fait nos tendances, nos tentations, gagne. Vous avez des textes là-dessus, Galates. Galates nous parle de la chair et de l'esprit. Mais la chair, qu'est-ce que c'est la chair? Je pense que la chair, c'est justement le lien entre l'âme spirituelle plus le corps et l'esprit. L'âme et l'esprit. Elle dit « les œuvres de la chair sont manifestes ». La chair, elle est elle est influencée par le péché originel. On est avec le péché originel en nous. Et c'est pourquoi les œuvres de la chair sont manifestes. C'est Galates 5:19. Galates 5. Vous voyez, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, etc., etc. Ça, c'est les œuvres de la chair. C'est les œuvres qui sont en nous, ça. Moi, j'ai tendance à penser que ce sont des œuvres qui sont en nous, qu'on a développées, mais dont on a aussi hérité de nos parents. C'est pas la même chose de naître dans une famille chrétienne consacrée que vivre dans une famille païenne. Vous n'êtes pas imprégné de la même façon au niveau de votre âme. Par contre, l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bonté, la bienveillance. La foi est un fruit de l'esprit, la douceur, la maîtrise de soi. Vous voyez, c'est très intéressant, c'est que il est question ici des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit. Il y a un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui a plusieurs caractéristiques. C'est comme une pomme, où, vous voyez, qui est de telle couleur, de telle taille, de telle masse, avec une chair très agréable, etc. Vous avez le fruit de l'esprit, c'est une chose entière et qui a toutes ses caractéristiques. C'est pour ça que, comme c'est aussi un reflet des béatitudes, les béatitudes, vous ne pouvez pas dire dans les béatitudes, si vous les relisez, tiens, moi je suis un bon de la justice. Parce qu'il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ah ouais, moi, mon truc c'est la justice. Et il y a juste avant, juste après, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors moi, les miséricordieux, je ne suis pas tellement miséricordieux, c'est mon copain. Moi, la miséricorde, ce n'est pas mon truc. Par contre, la justice, vous allez voir, hein. Tac, tac, ça va le faire. Et non, c'est tout le fruit qu'il faut avoir. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait tout le fruit. Pas avec spécialisation, mais de l'ensemble du fruit. Et ici, vous voyez, les œuvres de la chair, ce sont la chair, c'est tout ce qui nous tient, c'est-à-dire notre corps avec ses désirs, notre âme, c'est-à-dire même nos pensées, nos sentiments, nos ambitions, etc. Tout ce qui nous tient, tout ce qui fait notre personnalité, tout ce qui fait notre être, ça constitue la chair, et ces œuvres de la chair, elles sont manifestes, elles sont là parce que c'est ça qui nous tient. Par contre, le Saint-Esprit qui vient dans notre esprit, c'est lui qui conduit. Qui veut conduire. Notre rôle, c'est de laisser la main au Saint-Esprit et ne pas reprendre la main à chaque fois. C'est ça notre rôle. Il est là notre rôle. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce passage ici? On peut se demander. Pourquoi il y a ce passage sur le cœur, sur l'âme et l'esprit, puisque on parlait en fond d'autre chose, on parlait de l'éternité, du repos, etc. Comment se fait-il qu'on parle de ça maintenant? C'est une question. Mais si vous repensez à l'état d'esprit de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous comprenez. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Je reprends les idées de David. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Il est en train de dire, il y a des gens qui doivent comprendre que Dieu va vous juger selon ce qu'il voit en vous. Il y a des choses qui vont ressembler à la conversion, qui vont faire comme si c'était une conversion. Ce n'est pas une conversion. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui vont ressembler. Et Et ça ne sera pas. Oui, bonjour. Il est écrit là. Il est écrit là. Christ est comme fils sur sa maison. Il est comme fils sur sa maison. Ah non, plutôt verset 12. « Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, nous sommes devenus participants de Christ, c'est-à-dire nous sommes sauvés, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. » Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire exactement ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous pouvez retenir jusqu'à la fin l'assurance que vous aviez ? Au fond, l'apôtre, quand il voit quelqu'un, comme chacun d'entre nous, il ne sait pas si nous sommes sauvés. Par contre, il y a une chose qu'il voit, c'est la preuve qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas. La preuve qu'on l'est, c'est qu'on ait retenu jusqu'à la fin l'assurance qu'on avait au commencement. Il n'y a pas d'autre preuve. Donc on peut penser que quelqu'un est sauvé, bien sûr, parce qu'il y a une grosse probabilité, mais seul Dieu connaît les cœurs. Mais la preuve que nous sommes sauvés, elle est là. Cette phrase-là, elle atteste notre salut. Ce n'est pas une condition du salut, c'est une attestation du salut. Ce n'est pas une condition. Il n'y a pas de condition autre que la foi. Mais cette foi est attestée pour moi, pour vous, quand vous pouvez dire tel frère, il a jusqu'à la fin, il a été, il a montré qu'il était fidèle. Voilà. Et donc ici, il dit, voyez, il faut faire attention entre... Il faut que vous fassiez attention parce que Dieu va être capable de voir. Il dit, la parole de Dieu est capable de séparer entre la chair, entre l'âme et l'esprit. La parole de Dieu. Et lui-même, le Fils... Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert. Donc tout le monde voit. Et devant Christ, il sera clair qui était converti ou non. C'est ça le point. C'est de ça dont il parle. Parce qu'il a toujours cette pensée. N'endurcissez pas vos cœurs. Et il va dire, bon, si vous endurcissez vos cœurs, Dieu le verra. Car la parole de Dieu, elle sera séparée, ce qui était du vrai du faux. Il y a ce verset qui dit, voyez, je cherche le verset de... Voilà, c'est ça, pardon. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Qui s'opposera ? Car il connaît le vicieux, il voit... facilement les coupables. C'est dans Jérémie que vous trouverez ce texte-là. Ce verset-là, le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître ? Au fond, c'est le premier verset de l'Ancien Testament que j'ai connu moi-même. C'était le seul verset, quand je me suis converti, au bout de 15 jours, je connaissais ce verset. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Probablement parce qu'il y avait des gars qui le citaient dans l'église où j'étais. Et puis mes parents, auxquels j'avais dit que j'étais converti, ont voulu me faire rencontrer un dominicain, un prêtre catholique, de l'église catholique où ils allaient. Donc un dimanche après-midi, voilà que le prêtre est là, et on discute. Et moi je dis au prêtre, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ? Le prêtre, me voyant citer Jérémie, raide. Il ne savait pas quoi répondre. Il a dit à mes parents, mais bon, ben, qu'est-ce que vous voulez, ils connaissent la Bible. Moi, je connaissais un verset. Bon, j'en ai appris d'autres après. Enfin, bon, j'ai essayé de progresser. Mégane, ne rigole pas comme ça, Mégane. Mégane. Tu vas les faire tous rire. Voilà. Voilà. Alors ensuite, il dit « Demeurons fermes dans la foi que nous professons ». Vous voyez que entre, dans ce passage-là, entre avant le passage, qui est où il nous dit que nous empressons-nous d'entrer dans le repos de Dieu, empressons-nous, sinon on risque de trébucher et de jamais rentrer, il y a le fait qu'il est écrit « Faites attention, la parole de Dieu saura discerner celui qui est, celui qui n'est pas ». Et le verset d'après, il dit « Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Pour être secouru dans nos besoins. Vous voyez, c'est très intéressant parce que là, au fond, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de deux formes de désobéissance. La désobéissance de celui qui ne croit pas, celui qui ne va pas franchir la dernière marche, mais aussi de la désobéissance du croyant qui pêche. Vous voyez, là, au début, empressons-nous donc d'entrer dans le repos, là, c'est fondamental. Hein. Si on ne rentre pas dans le repos, c'est fini. Mais là, et ensuite il dit, puisque nous avons un grand sacrificateur, etc., demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc s'il est en train de nous dire, il est en train de nous dire, nous, pour nous qui sommes chrétiens, demeurons fermes, faisons attention, et approchons-nous du trône de la grâce en toute occasion, dans toutes les occasions qui sont nécessaires, pour demander le soutien, parce que nous avons besoin d'être soutenus. La vie chrétienne n'est pas facile. Elle est même difficile. Et donc, on a besoin d'être soutenu. Tous les jours, il faut qu'on s'approche du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Et nos besoins touchent tous les éléments de notre vie. Hein, il n'y a pas que les besoins auxquels on pense, tiens, j'ai besoin d'une voiture, d'un vélocipède ou d'un vélo à moteur. Il n'y a pas que ces besoins-là, il y a tous les besoins de la vie spirituelle aussi. Tous les besoins de notre vie spirituelle. On a besoin du soutien de Dieu dans notre vie spirituelle. D'être soutenu, d'être gardé du péché. Sans arrêt, on est tenté. Et je dirais que même plus ça va, plus notre être ayant été mélangé aux choses de la vie, se laisse corrompre facilement. Donc il faut lutter sans cesse. Ne croyez pas que la lutte s'arrête. La lutte ne s'arrête pas. Et pour nous, c'est une façon d'aimer Dieu vraiment que de lutter avec lui. Ne croyez pas que c'est une façon d'aimer Dieu, c'est de ne pas être tenté. Non, c'est pas ça. Notre façon d'aimer Dieu, c'est de lutter avec lui pour lutter contre la tentation. Voilà. C'est ça notre façon d'être. Seigneur, aie pitié de moi. Hein? Donc, pour revenir, le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux nous montre. Alors, je l'avais abordé certains aspects la fois dernière. Là, j'apporte d'autres aspects aujourd'hui. Voilà, voilà. Eh bien, mes amis. L'autre jour, j'ai fait un exposé aux jeunes sur la sanctification. J'ai préparé 8 pages. En 1h15, j'en fais 1h30. Je leur ai dit, est-ce qu'on continue? Ils ont dit non, non. Bon. Je voudrais dire que le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux nous montre que ce concept est éminemment biblique. L'éternité du salut, son assurance et sa sécurité. Le salut est éternel. En effet, il est écrit que ceux qui ont cru entrent dans le repos de Dieu. Et ce repos est éternel. Ça, c'est au chapitre 5. Il est écrit, au verset 9, « Après avoir été élevé à la perfection, j'espère pouvoir vous parler de ça dans le week-end, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Ça, c'est extraordinaire, ça. L'auteur d'un salut éternel. Quatre versets plus tard, il nous parle de Hébreux 6, et une grande partie des gens disent « Non, non, le salut n'est pas éternel, on peut le perdre. » Ben, je suis désolé, quatre versets plus tard, on dit « Regardez la définition, on peut perdre son salut. » Il dit « Mais oui, mais quatre versets avant, il dit que c'est éternel. Comment vous faites marcher tout ça ?» C'est compliqué, hein ? Bon. Donc, je reviens sur cette chose, pour finir, que c'est, il faut se hâter d'entrer dans ce repos, pour ne plus tomber, afin que personne ne tombe, pour ne plus tomber. Une fois qu'on est rentré dans ce repos, on ne tombe plus, c'est fini, parce que Dieu nous garde. Alors ça, on pourra regarder les versets. Alors je ne sais pas, peut-être un petit peu ce soir et demain. Bon, où la chute semble inéluctable. Voilà, et donc si on tombe, c'est que l'on n'est pas sauvé. C'est ça le chose. Si on tombe de façon définitive, c'est que l'on n'est pas sauvé. Et tomber de façon définitive, ça veut dire repousser les choses de Dieu. Bien qu'on les connaisse, c'est les repousser, les avoir vues, les connaître et les repousser. Voilà. C'est pour ça qu'il est écrit, il semble que l'issue inéluctable à l'incrédulité de ceux qui pourtant ont été, je reprends le chapitre 6, mais on reverra, et qui est éclairé, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, qui entendirent sa voix, et bien que ceux-là puissent s'en sortir. La chute semble inéluctable à ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, c'est dont il va parler au chapitre 6, dont j'en parlerai tout à l'heure, plus tard, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Eh bien, la chute semble inéluctable pour ceux qui ont fait ça et qui se sont arrêtés là. Pour quelle raison ? Ben pour une raison très simple. C'est que jamais il n'est écrit qu'ils ont cru. Ils ont goûté. Ils ont participé. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances à venir. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que ce texte n'indique pas la perte du salut ? Tout simplement parce que les gens qui ont fait ça, il n'est jamais dit qu'ils aient cru. Et je pense, bien entendu, je pense parce que c'est le contexte vraiment de cette épître à ceux qui étaient dans le désert. Rappelez-vous ceux qui étaient dans le désert. Tout d'un coup, ils ont eu soif. Il y a eu le rocher d'Horeb. Non, mais même avant. La mer s'est ouverte pour les laisser passer. C'est quand même extraordinaire. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais vu, si vous voulez, même un ruisseau s'ouvrir pour moi. J'ai plutôt eu froid dans les ruisseaux. La mer s'est ouverte. La nuée qui les guidait, qui était devant, est passée derrière. C'est quand même extraordinaire, ça. Ensuite, quand ils sont dans le désert, ils arrivent au rocher d'Horeb. Et là, ils ont une petite soif. Ce qui est compréhensible, il fait chaud. Donc, Moïse, en frappant sur le rocher, leur fait obtenir de l'eau. Je veux dire, vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, la manne. Bon, ça continue comme ça. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on est pratiquement dans l'exemple de ces gens qui ont goûté, qui ont vu, qui ont perçu, mais qui n'ont pas cru, puisque finalement, quand Dieu leur dit, vous allez de l'autre côté du Jourdain, et c'est là-bas que vous allez, c'est moi qui vous dis d'aller, que Moïse envoie 12 espions, qu'est-ce qui se passe ? Les espions disent « Oui !» Sauf deux. « Oui !» ils sont tous grands, ils sont tous des géants, etc. On ne va pas pouvoir y aller. Mais Dieu leur a dit, allez-y. Ça, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité patente. Si Dieu te dit de faire quelque chose, même si tu as peur, tu le fais. Et d'ailleurs, de la part de Moïse, c'est très intéressant parce que de la part de Moïse, Moïse, il n'a pas dit « j'y vais » comme ça. Il a dit « bon, Dieu me dit d'aller, je vais ». Mais il envoie ses espions pour voir comment ça se présente. C'est comme ça la vie chrétienne. Le Seigneur nous dirige et nous conduit quelque part, mais en même temps, il nous demande d'utiliser notre cerveau pour voir comment les choses se présentent. Mais pas pour que notre cerveau dise « on n'y va pas ». Vous voyez ? Ils n'ont pas perdu le salut puisqu'ils n'ont jamais été dit qu'ils l'aient eu. Où est l'expression de leur espérance ? Oui. Où est l'expression de leur espérance dans ces textes ? Je reviendrai tout à l'heure. Voilà, simplement, il faut que je me cale un peu sur le timing, là. Si je fais encore une demi-heure, ça m'amène à 7h30. Est-ce que c'est OK, là ? Oui, bon. Bon, je reviendrai sur ça tout à l'heure, puisque maintenant, j'ai fini le chapitre 4, et je passe au chapitre 6. Et là, au chapitre 6, on va revoir le texte dont je viens de vous parler. Mais avant de vous en parler, je vais vous parler de la perfection. Au chapitre 6, on commence par « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. » Tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, etc., etc., qui ont goûté au don céleste, je reviens sur ce texte que je vais rediscuter là, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. D'abord, vous voyez, il y a un mot important qui est le mot « perfection ». Nous tendons à ce qui est parfait. Il faut voir que ce mot « parfait » apparaît plusieurs fois dans ces passages. Au verset 2-10, il est écrit « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, au verset 2-10, et qui voulait conduire à la perfection beaucoup de fils, à la gloire, beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances les princes de leur salut. » Donc il faut que Christ soit élevé à la perfection. Le mot grec, c'est teleio ou teleios. Au verset 5-9, il est dit « Après avoir été élevé à la perfection, ça c'est dans le chapitre 5, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Donc Christ a dû être amené à la perfection. Au verset 5-14, il est dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux par l'usage qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » Et en Romains, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le mot « parfait » est associé à Christ en plein d'endroits dans cette épître. Et il est associé au discernement. Parce qu'ici, au verset 5-9, « Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui ont... Il est dit, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement. » Les hommes faits sont des hommes qui ont un discernement. Et Christ devait être amené à la perfection. La perfection, c'est la perfection des choses de Dieu. Et pour discerner, pour devenir un homme parfait selon Dieu, il faut pouvoir discerner les choses qui viennent de Dieu. Et ça, c'est vrai de la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il faut un discernement. Il faut savoir discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. C'est un petit peu la même chose que ce qu'on a vu dans le chapitre 4 quand on a dit que la parole de Dieu était capable de séparer ce qui était bon de ce qui était bon de ce qui n'était pas bon. Là, ici, au chapitre 5, il dit que les hommes faits, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. L'homme fait discerne. L'homme fait, c'est le même mot que parfait. C'est le même mot, alors qui est un coup traduit parfait, d'autres coups traduit par parfait. Mais c'est le même téléio. C'est le même. Alors, là, cet homme, l'homme parfait, l'homme fait, ou l'homme parfait, c'est l'homme qui est capable de discerner. C'est l'homme qui est capable de dire ça, ça vient de Dieu, ça, ça ne vient pas de Dieu. Alors, je m'étais creusé, je me suis dit, il me faudrait un petit exemple, puis je n'avais pas trouvé d'exemple. Et puis, dans le courant de ma vie, est venu l'exemple parfait, où on voit ce que ça signifie. Où on voit ce que ça signifie. C'est Christ aux tentations. Et là, vous avez l'homme parfait, Christ, qui tentait, est capable de discerner. Et il discerne comment ? En utilisant la parole de Dieu. Vous voyez ? Il est écrit ici que pour les hommes faits, ou parfaits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Pour l'usage à discerner ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. Regardez, quand il est dit à propos de la première tentation, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, le tentateur, s'étant approché de lui, dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus lui dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous voyez que là, le Seigneur, il voit la tentation. La tentation vient de ce que, bon, bien sûr, il a eu faim. Mais il analyse tout de suite que le problème, c'est la convoitise. Et la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Donc, en réalité, ici, il est question de la convoitise de la chair. Et c'est ce dont il va être question dans, plutôt plus tard dans 1 Jean 2, où il est question de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Ça, c'est les trois grands problèmes. Mais là, c'est la convoitise de la chair. Et le Seigneur la discerne. Parce que, vous voyez, il était, comment, d'une certaine façon, licite de manger, étant donné qu'il avait jeûné 40 jours. C'était licite. Mais le Seigneur voit que c'était utiliser le don que Dieu lui a donné à des fins personnelles. Il dit, ça, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est céder à une convoitise de mon corps, mais non pas à la volonté de Dieu. Il discerne. L'homme fait. Pensez-y. L'homme fait discerne. Il discerne et pensez aux tentations. Christ a discerné. La deuxième tentation. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui répond, il est aussi écrit. Parce que vous avez vu, là, le diable a dit, bon, ben, puisque à la première tentation, le Fils m'a répondu en citant les Écritures, je vais moi aussi les citer. Il dit, moi, je vais les citer, je suis capable de citer les Écritures, et dit, regarde, c'est promis. Il est promis que le Seigneur ne te laissera pas. Donc, si tu montes là-haut et que tu te jettes, alors, ça présentait un gros intérêt parce que tout le monde aurait vu et donc tout le monde aurait dit. Et donc, Christ aurait tiré sa gloire de ce saut. Ça, c'est une part, une des aspects de la chose. Et d'autre part, l'aspect qui est à voir, c'est que dans un sens, en sautant de cette façon-là et en s'attendant aux mains de Dieu, il allait, comment dire, tenter Dieu. Tenter Dieu, ça veut dire l'obliger. C'est-à-dire s'appuyer sur la promesse de Dieu, sur sa bonté et obliger Dieu à agir. Et ça, c'est une forme d'irrespect total. Et là, vous voyez, vous avez le maximum du discernement. Christ discerne en quoi faire une telle chose et quelque chose qui est complètement irrespectueux par rapport à Dieu. L'homme fait, c'est celui qui est capable de discerner. Vous voyez ? Ensuite, il l'amène sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde, leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Mais regardez ça. En réalité, quand il dit ça, cette tentation, c'est une tentation qui est formidable, parce que pourquoi est-ce que Christ est venu sur cette terre ? C'est pour sauver les hommes. Et c'est pour se créer un peuple. Et le diable lui dit, ce peuple, je te le donne. Tu n'as même pas besoin de passer par la croix. Ce peuple, il est là. Déjà, c'est moi le prince de ce monde. Je te le donne. Mais tu te prosternes devant moi. La tentation pour Christ, c'était de ne pas aller à la croix, là. De ne pas faire l'œuvre. Et vous voyez, c'est là que vous voyez l'homme fait. L'homme fait est capable de discerner, de voir où est la tentation, comment elle se construit, comment elle se fait pour obtenir ça, ça, ça et ça. Nous avons l'ambition de devenir des hommes faits. Maintenant, il va dire, il continue, et je vais vous lire une façon, la suite de ça, en enlevant des parties qui nous détournent du contexte général. Et je vais donc vous lire à partir du verset 5, 14, ou verset 6, 6, en enlevant les parties qui détournent. La nourriture solide est pour les hommes faits. Je vous ai dit qui étaient les hommes faits. C'est pourquoi avançons sur le chemin de la perfection, c'est-à-dire celle de Christ. N'est-ce pas ? Car si on n'avance pas sur le chemin de la perfection, on va sur un autre chemin. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, là je reprends le texte que j'ai lu tout à l'heure, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc j'ai repris le texte que je vous ai lu tout à l'heure, en vous disant tout simplement que l'apôtre nous dit que être un homme fait, capable de discerner, c'est justement être capable de voir, de savoir séparer ce qui est simplement goûter la bonne parole, goûter le bon céleste, le don céleste et les puissances du siècle à venir, ou simplement être éclairé, c'est simplement être capable de dire là, ici, je n'ai fait que goûter. Là, ici, je n'ai fait que voir, je n'ai fait que entrevoir. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Quel est mon acte de foi ? Quelle est ma réponse de foi ? Car en fait, c'est ça. Dieu nous donne tout, nous présente tout. Il se présente à nous, même dehors. Vous n'avez qu'à regarder les feuilles des arbres et les arbres eux-mêmes. Tout ça, c'est la création de Dieu. J'ai rencontré une dame il y a des années, au Maroc. Et cette dame, qui était une Marocaine, avait dit qu'elle pleurait quand elle voyait les arbres. Parce que elle voyait la création de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui pourraient être aussi enthousiastes que ça. Elle pleurait. Et nous devrions presque pleurer en voyant les arbres, en disant, mais c'est sidérant. Devant la création, on devrait pouvoir. Et là, les gens ont dit, mais j'ai vu, j'ai goûté, tout va bien. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Est-ce que je me suis approché en disant, Seigneur, moi, je crois et je te fais confiance. Parce que le Dieu qui a fait ça, je veux absolument lui faire confiance. Et ma position à moi, ma position, c'est de lui faire confiance. C'est ça ma position, c'est pas autre chose. Alors, maintenant, les gens disent, avec ce texte-là, on peut prêcher la perte du salut. Mais c'est de la folie douce. Puisque à aucun moment, il est écrit que les gens dont il est question n'aient cru à un moment. Or, nous savons que c'est par la foi qu'on rentre dans le repos. Alors les gens disent, ah ben oui, non, mais là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais tu dis, oui, mais regarde. Dans Jean, il est écrit que personne ne me retirera de ma main. Et puis Pierre le dit. Et puis Jude le dit. Et tous les apôtres le disent. Non. Il faut changer la doctrine. Alors c'est très intéressant, parce que l'idée de changer de doctrine, ça m'a donné de réfléchir un tout petit peu aux choses. On peut vouloir changer de doctrine. Et je vous donne un exemple. Au milieu du XVIIIe siècle, pratiquement la trajectoire des sept planètes qui étaient connues à cette époque, qui étaient répertoriées, connues et vues, elles avaient pu être étudiées et elles avaient été confrontées à la théorie de Newton et ça marchait très très bien. Hein, les planètes autour du soleil, du système du Soleil, ça marchait très bien. Il y a toujours une difficulté. Il y a une difficulté, c'est que la seule chose qu'on sache résoudre, c'est une planète autour du Soleil. Mais dès qu'il y en a une deuxième, là déjà, on ne sait plus résoudre des équations. C'est ce qu'on appelle un problème à trois corps. On ne sait pas résoudre un problème à trois corps. Alors à sept, puis alors à beaucoup plus, vous imaginez. On peut faire, bien sûr, des choses avec des ordinateurs, mais à la main, comme on faisait au 19e siècle, non. Au 18e, non. Au 19e, non. 19e. Vous n'avez pas fait. Mais quand même, on avait monté une théorie qui s'appelle la théorie des perturbations, et on savait quand même avoir des résultats qui étaient à peu près corrects. Et voilà que dans la trajectoire d'Uranus, il y a des trucs qui n'allaient pas. Et Uranus se balade à 3 milliards de kilomètres autour du Soleil. C'est quand même un peu loin. Alors, bon, il y a des gens qui ont dit, bon, c'est simple, hein, c'est que ça veut dire qu'aux longues distances, l'attraction universelle de Newton, ça ne marche plus très bien. Bon, il faut le changer. Il faut changer les paramètres. C'est plus en 1 sur R2, c'est en 1 sur, etc. Alors ça, c'est une façon de voir. Mais Le Verrier, qui est un Français, lui a dit, je garde Newton, mais je suppose qu'il y a quelque chose que je ne connais pas, et qu'il y a peut-être une planète en plus qui perturbe le mouvement d'Uranus et que ça expliquerait tout. Et donc, il met en évidence une possibilité, étant donné les chiffres qu'il avait, il voit qu'il y aurait une planète qui pourrait, si on lui mettait telle trajectoire, perturber la trajectoire d'Uranus de telle sorte que la trajectoire d'Uranus soit, corresponde aux mesures. Et le, figurez-vous, le 13 novembre 1846, il dit « Pointez vos télescopes dans telle direction et regardez. » Et le 13 novembre 1846, on pointe les télescopes dans la bonne direction et on voit une planète. Et on lui donne le nom de Neptune. C'est Neptune. Neptune vient de naître. Alors vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas changé la théorie. On a simplement dit qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'avait peut-être pas été pris en compte et qui explique ce qui se passe. Pour le salut, c'est pareil. Pour le salut, c'est pareil. Les gens disent, bon ben voilà, avec ce texte-là, rien ne va plus, alors que vous dites, mais non, non, non. Commencez à bien interpréter le texte et vous verrez que tout changera. Et c'est ce qui se passe quand on interprète bien tout le texte. Alors bien sûr, je sais que Thomas va me dire que on peut aussi avoir à changer les lois. C'est ce qui s'est passé avec... la mécanique d'Einstein. Mais, bon exemple, s'applique au cas où on veut changer les lois. Les lois du salut, on ne peut pas les changer. Car elles tiennent fermes, elles sont tenues par tous les apôtres, et vous ne pouvez pas changer ça. Si quelqu'un vous dit on peut perdre son salut, vous dites, mais est-ce que toi t'es sauvé? Parce que ça, c'est la question. Maintenant, je continue. Donc, je vois que là, on dit qu'il y a des gens qui ont regardé, qui ont goûté au don céleste, et qui, au fond, ne sont jamais, qui n'ont jamais cru. Alors, je vous ai dit, il y a la perte du salut, mais ça, ça ne tient pas la route. Maintenant, il y a un deuxième. Il y a un péché qui, lui, est un péché qui existe dans la Bible. C'est le péché contre le Saint-Esprit, qui est un enseignement que l'on trouve dans les évangiles synoptiques, et je vais vous lire tout à l'heure, c'est le seul qui ne soit pas pardonné. Alors là, vous dites peut-être que le texte qu'on est en train de regarder touche au péché contre le Saint-Esprit, parce qu'il est bien dit, il ne va pas être possible. Dans le texte d'Hébreux 6, que ceux qui sont tombés et qui sont tombés, c'est-à-dire qui n'ont jamais monté la dernière marche, et qui ne sont jamais amenés à la repentance, que ceux-là qui ne sont jamais amenés à la repentance, eh bien, qu'ils soient encore amenés, qu'ils soient amenés, puisqu'ils crucifient pour leur par le Fils de Dieu, il est impossible à ceux-là... Alors, attendez-moi voir. Qu'ils soient renouvelés, qu'ils s'en sortent, qu'ils soient sauvés. Donc, voilà un cas d'une situation où des gens ne peuvent pas s'en sortir, ne peuvent pas être sauvés. Nous connaissons dans les Écritures un cas où on ne peut pas se sauver, on ne peut pas être sauvé. Si on pêche contre le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce péché contre le Saint-Esprit? Je vais vous le dire. Vous prenez dans Marc au chapitre 12. Alors, attendez voir. Et au verset 22. Mes chers amis, se pourrait-il... Ah non, Marc, chapitre 3. Je me suis trompé. Marc, chapitre 3, verset 22. Verset 22. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, à propos de Jésus, il est possédé de Béelzébul. Béelzébul, c'était un diable. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit... sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. il ne peut subsister, mais en effet de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés. Tous. Aux fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront préférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Suivez-moi bien. Jamais les scribes n'ont dit que Jésus ce qui est clair, c'est qu'ils n'ont jamais voulu reconnaître l'œuvre de Dieu en Christ. Ce faisant, ils rejetèrent. Ah oui, voilà ce que je voulais vous dire. Il apparaît que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas un mot prononcé contre le Saint-Esprit. À aucun moment, Jésus ne dit, les scribes ne disent quelque chose contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit dont il est question ne correspond pas à avoir dit quelque chose à propos du Saint-Esprit. Les scribes n'ont pas dit quelque chose sur le Saint-Esprit, ils n'ont rien dit. Ils ont dit « il chasse par Belzébul ». Donc le péché contre le Saint-Esprit n'est pas un mot contre le Saint-Esprit. Mais c'est quoi alors ? Ben, c'est tout simplement qu'ils ont vu l'œuvre de Dieu, qu'ils ont refusé de l'œuvre de Dieu, c'est l'un créé du... Je vous aide là. C'est l'incrédulité. C'est ça qu'il leur dit. Mais regardez, repensez à ce qui est écrit. Sur l'œuvre du Saint-Esprit en Jean 16. L'œuvre du Saint-Esprit. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et qu'est-ce qu'il dit ? De péché, car il ne croit pas en moi. Le péché, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Le péché, c'est l'incrédulité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est le fond. C'est extraordinaire. Je peux vous dire qu'il faut se creuser la tête pour comprendre cette épître. Mais quand vous commencez à comprendre, vous dites c'est incroyable la profondeur de cette épître. Vous voyez que le fond de l'affaire ici, qu'il aborde dans Hébreux au chapitre 6, verset 6, verset 4 à 6, il aborde le problème de l'incrédulité. Les gens ont vu, ils n'ont pas cru. Mais c'est exactement comme les mecs, les juifs avec, qui n'ont pas cru, et hein, qui ont eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Aman, mais avant l'Aman. Ils ont eu la nuée, la mer, le rocher, ils ont eu tout ça. Mais ils n'ont pas cru. Quand Dieu leur demande de faire l'effort de dire « on va y aller », dès que les espions reviennent et qu'ils disent « ouh !» Oh là là, ils sont grands. Ils sont très grands. Ben, moi, je comprends que ça les effrayait. Hein. Mais si Dieu t'envoie, tu y vas. Hein. Surtout si Moïse est là. Hein, manifestement, Moïse avait reçu les... Ah oui, et puis ils ont quand même vu la montagne trembler. Ils ont vu Moïse au milieu du feu. Ils ont vu les tables de la loi données. Ils ont vu tout ça. Dieu leur dit, tu vas là. Ils n'y vont pas. Oui. Mes chers amis, il n'est pas impossible que je m'arrête là, mais comme évidemment le truc a bougé, je ne sais pas quelle est la suite. La suite, bon ben. Ah oui, la suite, oula. Non, mais là, là, attendez. Là, non. Ah ben non, 7h30. Non, non, demain, non, non, demain, demain, on va faire la suite parce que, ensuite, il dit, quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures. Et ça, je veux traiter ce passage-là. Et malheureusement, ceux qui ne pourront pas venir vont rater un truc là parce que je vais parler des conséquences de la foi. Et les conséquences de la foi sont considérables. Mais là, je m'arrête là, il est 7h30, il est important que je vous laisse. Vous ne pouvez pas rester comme ça dans l'attente de votre dîner. Tu veux conclure, frère ?
Bien, merci.